Les lundis de l'histoire, Jacques Le Goff. Notre émission de ce matin a un caractère tout à fait exceptionnel. Caractère exceptionnel parce que l'auteur du livre dont nous avons parlé est lui-même un personnage exceptionnel. Ce n'est pas seulement un grand historien, actuellement un grand universitaire, mais c'est un Polonais qui, comme vous le verrez, s'exprime très bien en français, ce qui nous donne la joie de l'avoir à ce micro. Exceptionnel ensuite parce que cet universitaire polonais a été, les auditeurs de France Culture ne doivent pas l'ignorer, un des héros de la récente histoire de Pologne. Il a été un des chefs de la résistance au régime communiste. Il a passé plusieurs années de sa vie en prison. Et je pense, et je dirais même que j'espère, que c'est un cas qui ne se produira pas trop souvent à cette émission, que d'y faire parler des historiens qui ont passé une partie de leur vie en prison. Enfin, en soi-même, d'un point de vue intellectuel et scientifique, cette émission a un caractère exceptionnel. Car le sujet de l'ouvrage dont nous allons parler, et par conséquent, le sujet de notre discussion n'est pas un sujet que l'on traite souvent, et pourtant, j'espère que cette émission, et pour la majorité d'entre vous, je le souhaite, la lecture de l'ouvrage, les persuadera qu'il s'agit d'un des thèmes très importants de l'histoire en général et de notre histoire en particulier. Il s'agit donc de l'ouvrage de Karol Modzelewski, actuellement professeur à l'Université de Varsovie, et l'ouvrage s'appelle « L'Europe des barbares, Germains et Slaves » face aux héritiers de Rome. Il a été traduit du polonais par Agata Kozak et Isabelle Makor-Filarska. Il a été publié aux éditions Aubier et notre invité, qui va être l'interlocuteur de Karol Modzelewski, est bien connu de nos auditeurs, il s'agit de Jean-Claude Schmitt, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Karol Modzelewski, je vous poserai la même question qu'aux invités de cette émission pour commencer. Quel est le thème de votre livre ? Qu'avez-vous voulu étudier et expliquer à vos lecteurs?
J'ai voulu m'opposer d'abord. C'est bon de s'opposer de temps en temps. J'ai voulu m'opposer à des stéréotypes du passé européen, du passé commun de l'Europe, qui réduisent ces passés à l'héritage gréco-romain, dit culture classique, culture méditerranéenne, etc. Il y a un certain temps, il était presque obligatoire de parler d'une synthèse, comme on disait à l'époque, entre justement la civilisation romaine et l'apport germanique, mais germanique uniquement. Et c'est tombé en une certaine désuétude, je dirais, et pourtant, cette image de l'Europe héritière directe de Rome, il me semble très unilatéral, il me semble que cet unilatéralisme me semble particulièrement dangereux dans la situation où la globalisation implique un peu l'uniformisation intellectuelle. J'ai voulu mettre l'accent sur l'importance dans l'identité européenne, d'abord sur l'hétérogénéité de l'Europe culturelle, et l'unité qui est en train de se construire, comme toujours. Ce n'est pas un procès achevé, c'est un procès qui dure depuis longtemps. Cette unité n'efface pas l'hétérogénéité, et on ne peut pas ni comprendre ni définir d'une manière utile, pour ainsi dire, la culture européenne sans tenir compte de ses racines beaucoup plus différenciées, beaucoup plus compliquées que suivantes. Et donc j'ai mis l'accent sur le fait que nous sommes les héritiers, nous sommes aujourd'hui les héritiers culturels, au sens historique, de peuples barbares et de leur culture qui était considérée assez longtemps la non-culture.
Voilà, nous voyons déjà un des intérêts, une des importances de ce livre, c'est qu'il nourrit l'idée de la richesse et de la multiplicité des composantes de l'Europe. L'Europe n'est pas une depuis longtemps, depuis toujours. L'Europe qui est en train de se fait à partir de composantes plus nombreuses, plus diverses, plus hétérogènes qu'on ne croit, et c'est par conséquent un travail d'une très grande difficulté, mais aussi très passionnant. D'autre part, Karol Modzelewski, pour parler de cette composante barbare, si j'ose dire, des origines de l'Europe, vous indiquez que dans votre ouvrage, vous avez eu souvent recours à des méthodes à caractère peut-être plus ethnologique que historique à proprement parler. Qu'entendez-vous par là ?
D'abord, je juxtapose. J'ai fait une analyse conjointe des textes qui sont séparés par un très long, souvent très long, très grand décalage chronologique. Des Tacites, la Germanie des Tacites, qui est du 98,
fin premier du siècle de l'ère chrétienne,
oui, jusqu'à Helmold, ou Saxo Grammaticus, qui sont du XIIe siècle, donc 11 siècles du décalage chronologique. Il y a un décalage ethnique, il y a une grande distance dans l'espace et un décalage ethnique, parce qu'il s'agit, chez moi, des Germains et des Slaves, surtout des Slaves d'Occident, mais pas seulement, quelquefois aussi, au titre d'exception plutôt, des Baltes. Et il faut dire que la tradition, notre tradition qui est une héritière, ou plutôt un résultat des philosophies et nationalistes du début du XIXe siècle, du panslavisme, du pangermanisme, qui ont imposé les études absolument séparées du monde slave, intégré, soi-disant, est tout à fait différent du monde germanique, etc., des grandes communautés ethnolinguistiques.
Si vous permettez, Karol Modzelewski, je soulignerai pour nos auditeurs caractère ethnologique, sans aucun doute, et l'on sait que l'histoire et l'ethnologie ont maintenant noué des relations qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour les deux tendances scientifiques, mais que, en même temps, cet ouvrage m'apparaît comme une illustration de ce que peut être, de ce que doit être, de tout ce que apporte l'histoire dans la longue durée.
Justement, c'est la notion qui a été introduite dans l'historiographie moderne par l'école des Annales. C'est un apport français, on peut dire, la notion de longue durée. Parce que il faut dire que la tradition très respectable de l'approche de l'atelier d'historien qu'on peut appeler paléopositiviste, c'est-à-dire celle du vieux positivisme, elle s'est fondée sur le dogme du synchronisme. Et elle défendait ce que j'ai fait. C'était strictement défendu. Et tandis que moi, je me décide à interpréter conjointement les sources qui sont convergentes dans leur contenu, mais qui ont été écrites autant différents et qui se réfèrent à des peuples différents. Et donc, c'est une approche anthropologique, c'est pas l'approche classique de l'historiographie. Je peux citer comme exemple mon maître universitaire, mort depuis quelques années, Alexandre Geistor, qui dans son livre, il va être réédité bientôt en Pologne, et j'espère qu'il sera traduit aussi dans des langues européennes, qui s'appelle « La mythologie des Slaves ». Il s'agit de la mythologie païenne, bien entendu. Et, compte tenu d'une maigresse des sources écrites, ils sont pas tellement maigres en ce qui concerne le culte, les pratiques du culte, les structures des cultes, elles sont peut-être plus riches que celles qui concernent le peuple germanique. Mais elles sont maigres quand même en ce qui concerne la mythologie. Et il a fait valoir, à côté des sources écrites médiévales, de l'analyse de la culture populaire registrée par les ethnologues à la fin du 19e et au 20e siècle. Et il a trouvé des convergences vraiment frappantes. Et on trouve par exemple le même dialogue entre prêtres et fidèles, le même dialogue rituel, dans la chronique des Saxo Grammaticus et dans l'église bulgare au début du XXe siècle. Christianisé, bien sûr, mais païen au fond. Et le même rite, les rites, il plonge ses racines dans les mythes, toujours. C'est-à-dire, Geistor reconstituait la mythologie slave en rompant d'une manière très hardie avec le dogme du synchronisme. Je pense qu'il faut, pour pousser la recherche avant, il faut sortir des enclos de nos disciplines et chercher de formuler les problèmes et de résoudre les problèmes en collaboration entre l'espace des compétences diverses.
Jean-Claude Schmitt, quelle est votre façon de recevoir cette façon de faire l'histoire, et en particulier telle qu'elle s'exprime dans cet ouvrage?
Oui, je reprendrai volontiers quelques-uns des termes que Karol Modzelewski vient de proposer. D'abord, pour insister sur la profonde actualité de ce livre, ce qui est paradoxal, il traite des barbares du haut Moyen-Âge, mais il faut aussi le lire comme un livre tout à fait actuel à la lumière de l'unification politique, sociale, culturelle de l'Europe aujourd'hui. Et donc le fait que ce livre nous vienne de Pologne nous amène à réfléchir, après l'entrée même de la Pologne dans la communauté européenne, sur cette nécessaire reconnaissance de la diversité culturelle de l'Europe. Tout ne vient pas de Rome, tout ne vient pas d'Athènes, il y a d'autres traditions encore dont il faut tenir compte. Le deuxième point, me semble-t-il, est en effet méthodologique. Et il y a tout l'aspect de l'anthropologie historique, disons l'ethnologie, quel est l'apport de l'ethnologie aux méthodes traditionnelles de l'historien et comment cet apport peut permettre de repenser un certain nombre de choses, de les éclairer autrement, comme le montre cet exemple merveilleux de divination paysanne hein, dans l'Europe contemporaine et qui apparaît comme une sorte de transcription de textes très anciens. Il y a aussi un autre point sur lequel certainement nous allons insister, qui est ce qu'on pourrait appeler l'archéologie des textes. C'est-à-dire que le paradoxe de la démarche de Karol Modzelewski est de travailler sur des textes qui ne sont jamais la voix même de cette Europe barbare. n'est-ce pas, qui se situe toujours ou après ou ailleurs. Hein. C'est-à-dire, ce sont des témoignages extérieurs, ce sont des témoignages postérieurs, dans la mesure où ils nous sont donnés à une époque où toute l'Europe centrale est déjà christianisée, et où, à travers des textes qui sont profondément marqués par la culture latine et ecclésiastique, on peut retrouver quelque chose de ce passé barbare pré-chrétien. Alors là, bien sûr, s'exerce toute la méthode et l'acribie même de la méthode proposée par Karol Modzelewski. Et puis, il y a le point, enfin, qu'il vient de souligner et qui mérite en effet toute notre attention, c'est que nous n'avons pas ici un historien qui ne travaille que sur l'Europe slave, ou comme d'autres ont travaillé que sur l'Europe germanique. Il y a un essai sur le plan géographique, non seulement de lier l'Europe centrale et l'Europe occidentale, mais aussi à l'intérieur de l'Europe centrale au sens général du terme, de lier très fortement l'Europe de tradition germanique et l'Europe de tradition slave, sachant que tout cela appartient évidemment à un vaste ensemble indo-européen.
Karol Modzelewski, parmi les sources qui vous ont permis d'écrire ce livre, car vous êtes malgré tout un historien et par conséquent vous vous adressez des sources, vous avez retenu une source exceptionnelle qui est la loi. Source exceptionnelle, d'abord parce que c'est une des plus riches qui ont survécu, et d'autre part parce que elles ont joué un rôle qui n'est pas seulement un rôle de description de la société, mais de force pour faire fonctionner cette société. Et une des caractéristiques de ces lois barbares, c'est qu'elles se sont elles-mêmes, si je vous lis bien, constituées dans le temps. Elles sont formées d'une série d'additions, d'apports successifs. Et votre ouvrage sur un nombre de points très différents mais considérables apporte sur le problème essentiel du temps dans l'histoire une contribution que je crois exceptionnelle. Pour montrer cette constitution par agrégation successive de ces lois, je propose à nos auditeurs un texte que vous citez dans votre ouvrage. C'est un extrait du prologue de la loi des Bavarois du milieu du 8e siècle.
Lorsque le roi des Francs, Thierry, séjourna à Châlons, il choisit les hommes sages qui étaient dans son royaume, connaisseurs des anciennes lois. Il leur ordonna de mettre par écrit, suivant sa volonté, les lois des Francs, des Alamans et des Bavarois, ainsi que de tout autre peuple soumis à son pouvoir, suivant la coutume de chacun. Il joignit ce qui était à joindre, et il élimina ce qui était mal conçu et mal composé. Et ce qui provenait de la coutume des païens, il le changea conformément à la loi des chrétiens. Ce que le roi Thierry ne parvint pas à corriger en raison des très vieilles coutumes des païens, le roi Childebert commença à le modifier et le roi Clotaire le mena à son terme. Tout cela, le glorieux roi Dagobert le fit renouveler par des hommes illustres, Claude, Chadouin, Magnus et Agilulf. Il améliora toutes les anciennes lois et les transmit par écrit à chaque peuple, ainsi qu'elles sont en vigueur jusqu'à présent.
Les sociétés dont vous nous parlez ont été baptisées d'abord par les Romains, qui sont les premiers à s'y être intéressés et avoir eu des rapports avec eux, puis ensuite par les chrétiens du Moyen Âge, et ensuite par les historiens jusqu'à nos jours. Ces sociétés ont donc reçu un titre qui est celui de barbare. Ce titre est curieux si, comme on le fait, on le regarde de près. A priori, c'est un titre négatif. Le barbare est un personnage non civilisé. Et le mot est fait d'une sorte de annonnement de syllabes qui marque une certaine impuissance à parler d'une façon raisonnable. Et pourtant, dans la plupart de ces sources, déjà dans la source la plus ancienne dont vous avez parlé, l'historien romain Tacite, au 1er siècle de l'ère chrétienne, et ensuite les chroniqueurs médiévaux chrétiens, l'image du barbare est souvent une image positive. Cela fait penser à ce que sera l'Indien du XVIe siècle après la découverte de l'Amérique. C'est le bon barbare, c'est le noble barbare, et en particulier, on reconnaît chez lui une pratique généreuse de l'hospitalité et de bonne mœurs. Comment expliquez-vous cette...
C'est assez compliqué parce que les sources à notre disposition sont toujours un effet des rencontres des cultures différentes, assez différentes, parce qu'il s'agit des cultures écrites, romaines, grecques, occidentales, chrétiennes, et des sociétés, des traditions orales qui ne pratiquaient pas l'écriture. Donc, il n'y a qu'un partenaire de ces rencontres qui nous est connu. Et c'est sa façon de comprendre ou de non comprendre, de méconnaître l'interlocuteur, sa manière de tomber dans les malentendus qui nous est connu. Il faut déchiffrer autant que possible ces malentendus, mais il faut aussi déchiffrer la manière de percevoir et les tendances. Et chez Tacite et chez tous les auteurs qui écrivaient sur l'hospitalité, il y a un mélange de deux éléments. D'abord, il y a la tendance à mettre devant les yeux d'une société civilisée, romaine païenne ou romaine chrétienne ou occidentale chrétienne, peu importe, qui est pourrie, qui a oublier son propre morale. Et il faut refaire cette morale en montrant que les barbares, malgré qu'ils sont des barbares, qui n'ont pas de culture, ils ont une certaine noblesse naturelle. Et d'ailleurs, les textes chrétiens disent la même chose. Ces gens sont païens, ils ne connaissent pas le bon Dieu, mais ils ont conservé dans leur cœur, tout naturellement, la voix du Dieu, et voilà, ils traitent les femmes d'une manière ignoble de notre point de vue aujourd'hui, et ce qui semble très bon, en revanche, soit à Saint-Boniface qu'à Tacite. Donc, il y a le stéréotype du noble barbare, mais à côté de ça, il y a le malentendu, la non-compréhension d'une... loi non écrite, d'une norme rigoureusement obligatoire dans les sociétés traditionnelles du barbaricum européen, c'est-à-dire l'obligation de garantir la sécurité des venus du monde étranger, des arrivants. Ce sont des textes très différents à partir du Tacite, à travers le pseudo-Maurice, c'est-à-dire un manuel militaire byzantin pour combattre les Slaves, où on parle de cette hospitalité, de ces soucis de garantir la sécurité commerçants, aux voyageurs qui étaient souvent des informateurs de l'armée byzantine ensuite. Donc, un élément très important pour Byzance. Et là, on voit que si on rompe, si quelqu'un ne s'exécute pas, ne garantit pas la sécurité aux voyageurs, il risque de se faire détruire par la vengeance, par la guerre, pour les mondes. Les uns font la guerre contre un autre. Cette vengeance, c'est la faïda. C'est exactement la vengeance. C'est la faïda qui n'est pas une faïda individuelle. On le voit très bien chez Elmol. C'est la faïda collective, la vengeance collective d'un groupe, de la communauté tribale, qui s'est tournée contre son brebis noir, qui a violé la norme sacrale. Parce qu'un autre était porteur du sacrum païen, la norme sacrale des protections des hôtes. Et ça, ce n'est pas compris. Les écrivains du monde civilisé, ils croient que c'est la bonté naturelle. Ils ne comprennent pas que c'est une norme obligatoire à exécuter avec l'emploi des coercitions, de la coercition communautaire.
Jean-Claude Schmitt, est-ce que vous pensez que cette conception de Karol Modrzelewski est très différente de l'historiographie précédente, et en particulier, est-ce qu'elle éclaire dans ses rapports sans cesse en évolution entre l'historiographie et les sources anciennes notre vision de ces barbares? Ce qu'il y a de très remarquable, c'est que pendant très longtemps, et Karol Modrzelewski nous a rappelé que jusqu'à aujourd'hui presque, dans certains pays de l'Europe de l'Est, il y a rencontre, il y a mouvement entre les populations dites barbares et les autres. Si bien que on rencontre des renversements constants. Pendant longtemps, ce qu'on apprenait à l'école en France aux enfants comme étant les invasions barbares est devenu, sous l'influence du nationalisme allemand en particulier, j'allais dire les promenades des peuples, les Völkerwanderungen.
Justement, il me semble très, très juste, très important d'insister contre cette théorie, notamment celle des Völkerwanderungen, de l'invasion germanique, d'insister avec Karol Modrzelewski sur cette ambivalence profonde du barbaricum, de ce qu'il appelle le barbaricum. Parce que d'un point de vue historiographique, du point de vue de ce qu'écrivent les historiens, il y a là une voie médiane extrêmement féconde entre deux positions opposées. L'une, celle qu'on vient de mentionner, qui insiste sur une sorte d'ethnogénèse des peuples germaniques, qui se définiraient en eux-mêmes, pour eux-mêmes, et l'autre, au contraire, qui réduit leur qualité à ce que Rome et la tradition romaine chrétienne postérieure a construit. C'est-à-dire que les barbares ne seraient plus que le produit de cette culture lettrée. Il y a là des auteurs que Karol Modrzelewski critique, Walter Goffart par exemple, et je citerai avec lui ce que Patrick Geary, qui a été aussi publié et traduit dans la même collection, écrivait, pour illustrer cette vision des choses. Le monde germanique fut l'œuvre la plus grande et la plus durable du génie militaire et politique de Rome. C'est Rome qui a construit les barbares. Alors, Karol Modrzelewski ne le nie pas, au contraire. Mais en même temps, il insiste aussi sur tout l'apport de ces coutumes orales germaniques ou slaves dans un droit, les lois, ce qu'on appelle les lois barbares, qui sont toujours ce que Carlo Ginzburg aurait appelé, dans un tout autre domaine, des figures de compromis. Quelque chose qui est toujours une sorte de transaction entre des traditions romaines d'un côté et des traditions germanique ou slave de l'autre.
Ces lois sont la figure du compromis qui progrès pas à pas et qui était considéré par les rois qui codifiaient les coutumes comme une œuvre de christianisation. Comme une œuvre, c'est ce que dit ouvertement une des lois anglo-saxonnes, celle de roi Edmond de 946.
Il reste que, dans la plupart de ces lois, quels que soient les compromis, les intégrations partielles, etc., il reste une distinction entre les barbares, ou plus exactement, la partie de tribus barbares pour qui est rédigée la loi, et les anciens romains. Et je propose à vos auditeurs d'écouter un autre texte que vous donnez dans votre livre. C'est un extrait de l'édit du roi lombard Liutprand en 727.
Quant aux scribes, nous décidons que ceux qui rédigent les chartes soit selon la loi des Lombards, qui est tout à fait claire et connue presque de tous, soit selon la loi des Romains, ne le fassent pas autrement qu'en conformité avec le contenu de ces lois. Qu'ils n'écrivent donc pas à l'encontre de la loi des Lombards ou des Romains. S'ils ignorent quelque chose, qu'ils demandent aux autres, et s'ils ne peuvent connaître pleinement ces lois, qu'ils n'écrivent pas ces chartes. Celui qui osera contrevenir devra payer comme amende son propre vergeld, à moins que les parties libres de la transaction ne se mettent d'accord. Car s'il y en a qui veulent renoncer à leur loi et conclure entre eux des accords ou des conventions, et que l'une et l'autre partie expriment leur accord, on ne doit pas le considérer contraire à la loi, puisque les deux parties l'ont fait de plein gré, et ceux qui écrivent ces chartes ne doivent pas être considérés coupables. Mais en ce qui concerne l'héritage, qu'ils écrivent dans le strict respect de la loi.
Karol Modrzewski, vous avez fait une allusion en évoquant l'attitude des « civilisés » entre guillemets à l'égard des barbares, à la façon dont ceux-ci traitaient les femmes. Qu'est-ce que les lois barbares nous apprennent sur la condition de la femme dans le barbaricum ?
Ben, c'est une société patriarcale, strictement patriarcale, et la notion centrale pour les Germains, comme pour les Slaves d'ailleurs. Seulement, le mot slave n'est pas connu l'équivalent slave. C'est le mund, mundium, mundius ou tutelle dans les textes latins, c'est-à-dire il y a un pouvoir tutélaire toujours obligatoire, hein, masculin sur chaque être féminin. Ces femmes ne sont pas des esclaves, elles ne sont pas des objets, elles sont des sujets des droits de la loi barbare, mais ce sont des sujets qu'on estime beaucoup parce que souvent chez plusieurs peuples barbares, le vergel, c'est-à-dire le rançon pour avoir tué une femme, est supérieur à celui qui est dû pour avoir tué un homme. Seulement, il est payé toujours à son tuteur masculin. Donc, elles sont sujets, mais elles sont sujets sous tutelle. Ce qui s'exprime en pouvoir parfois très brutal, surtout lorsqu'il s'agit des pouvoirs du père, ou d'un frère, c'est-à-dire des parents masculins les plus proches, et parfois très brutal.
On retrouve, me semble-t-il, cette sorte de contradiction qui existe dans ces sociétés entre des situations de domination brutale et des situations de protection sérieuse. Je crois que on voit combien nous avons affaire à des sociétés, aussi bien dans leur structure, dans leurs institutions, dans leur mentalité, différentes des nôtres. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le recours que vous avez eu, Karol Modzelewski, à un certain regard ethnographique, vous a permis d'aller jusqu'au fond, je crois, de ces sociétés. Alors, comme nous sommes malheureusement obligés de ne pas entrer dans le détail d'un monde si complexe et d'un livre aussi riche, je vous demanderai de vous concentrer maintenant sur trois ou quatre thèmes. Par exemple, ce que vous appelez les uns au-dessus des autres, la hiérarchie sociale. D'autre part, les institutions, avec deux points principaux. D'une part, le rôle de l'Assemblée, et d'autre part, le rôle d'un personnage qui est très différent de ce que les historiens, en particulier de l'Antiquité, ont l'habitude de trouver, le roi.
Quant à la hiérarchie sociale, il y a des différences assez profondes entre les royaumes barbares et les lois codifiées par ces royaumes. Et parce qu'il y a des peuples barbares qui ne connaissent pas la dimension juridique de l'hiérarchie sociale. Par exemple, l'État franc et les francs, la loi salique, la loi ripuaire, elle ne fait pas de différence de vergel, elle ne fait pas de différence juridique entre la différence profonde, on le sait par ailleurs, entre l'aristocratie et les francs libres.
Le vergel, je m'excuse de dire, c'est l'amende qui rachète un crime ou un délit, et que nous prononçons en général Vergeld
à l'allemand. À l'allemand. Tandis que les autres, comme la loi lombarde, ou comme la loi des Alamans, ou comme chez les Bourbons d'ailleurs, ils connaissent une gradation des positions sociales qui s'exprime en tarif des Vergeld, en tarif des Vergeld et en tarif des amendes pour les délits contre personne. Et enfin, on a des peuples barbares qui ont une division dichotomique entre la plèbe libre et la division juridique. Et une dichotomie de ce genre. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Que même là où il y a une dichotomie très stricte, comme chez les Saxons, où cette dichotomie, ou plutôt la position de l'aristocratie tribale, après la conquête est très protégée, elle est très élevée par la politique consciente de Charlemagne, qui cherche de se gagner l'appui de cette aristocratie traditionnelle. On voit bien qu'avant la conquête franque, c'est-à-dire avant le changement de l'ensemble des rapports sociaux, et avant la christianisation, ce qui est très important, la position de l'aristocratie est celle de guide et pas celle de domination. La plèbe libre a son degré d'indépendance. Il y a une tradition, il y a un charisme sans doute des aristocrates, comme le charisme de chaque chef, pour ainsi dire. Et ce qui produit une espèce de lignage où la position sociale est héréditaire, reconnue comme telle. Et de même pour le roi, d'ailleurs. Il faut du changement profond dans le système social et sociopolitique pour que ce leadership, je m'excuse d'avoir employé le terme anglais, se transforme en domination. Quant au roi, on peut...
Une question, Karol Modzelewski. Oui. Est-ce qu'on peut parler, comme je crois, certains historiens l'ont fait, de démocratie barbare?
Je ne crois pas du tout, parce que la notion de démocratie, à part bien entendu les contenus de cette notion dans le monde grec, la notion démocratique chez nous s'associe à une certaine position d'individu. Si on parle de la démocratie barbare, on néglige la différence profonde entre cette société qui est profondément collectiviste, où la pression du groupe exercée sur l'individu est, de notre point de vue, insupportable. Pour ne citer qu'un exemple, il y avait la règle d'unanimité pendant les assemblées. Et on ne comptait pas de voix, donc c'était pas un suffrage, c'était une acclamation. Mais si quelqu'un exprimait son désaccord, s'il le faisait à haute voix, en hurlant, alors on ne pouvait pas prendre la décision, on ne pouvait pas trancher les problèmes, ou bien il fallait les forcer physiquement à accepter l'avis des autres. Tittmar dit qu'on convainquait les opposants à coups de bâton. Ce n'est pas une expression d'un respect démocratique, d'un avis personnel, d'un avis de l'individu, c'est l'action de la communauté qui est incapable d'agir dans la situation de la dissidence, de la divergence d'opinion.
Le roi.
Le roi, en toute brévité, on peut tirer des sources, y compris et surtout des sources juridiques, la figure des rois, qui est non seulement les grands guerriers, mais alors compagnons d'armes de tous les autres guerriers de son tribu, les plus élevés, mais justement les leaders. Mais il est aussi les grands-parents de tous les membres de sa tribu. Et cette qualité des grands-parents, c'est-à-dire il a les prérogatives des tutelles des femmes qui n'ont pas de leur tuteur naturel, parce qu'elles sont restées seules, ou bien dans les cas où les tuteurs naturels, sauf que ce soit le père, le frère, se sont comportés d'une manière inacceptable. Et dans ce cas-là, c'est le roi qui intervient et qui prend le rôle du tuteur. Il y a plusieurs éléments qui prouvent que le roi est considéré comme les parents de tous les membres de la tribu tout entière. Et si on parle de la tribu comme de mythe de la tribu comme une communauté de sang, c'est le roi qui est le voussoir. Là où il y a des rois, parce que pas dans toutes, il y a des tribus qui ont le commandement royal et il y a des tribus qui s'en passent très bien de ça. Mais là où il y a le commandement royal, il est un voussoir de cette communauté de sang et c'est lui qui unit cette communauté de sang à des divinités païennes. Parce que la communauté de sang, elle est créée par le mythe d'origine divine du peuple, c'est-à-dire du roi qui est à la tête de la communauté. S'il est descendant des votants, le roi, alors tous les membres de la tribu, jusqu'au plus humble type de plèbe, sont également les cousins ou les descendants des votants, de la divinité des guerriers. C'est le cas, ce n'est pas le cas des Lombards, parce que les Lombards n'avaient pas de rois au moment où s'est construit le mythe de leur provenance, ou plutôt de leur adoption par votants.
Bon, donc le roi tribal, vous le dites très nettement, n'était pas un souverain, comme il le deviendra par la suite, et je reprends votre explication, il guidait son peuple plus qu'il ne régnait. Jean-Claude Schmitt, est-ce que vous avez sur ces sujets, je suppose que vous en auriez beaucoup, mais est-ce que vous auriez une ou deux questions à poser à Karol Modrzewski?
Oui, une remarque simplement. Je crois que ce qui est intéressant dans tout ce que vous venez de dire, c'est que vous expliquez par là les raisons pour lesquelles l'histoire médiévale de l'Europe centrale présente des traits particuliers par rapport à l'Europe occidentale, marquée par ce qu'on peut appeler la féodalité, le féodalisme, etc., et une royauté, en effet, différente, celle de souverain, dont la légitimité repose tout à fait sur d'autres bases que celles que vous venez de dire. Donc, l'intérêt même de votre étude, c'est précisément d'expliquer cette voie différente avec... ce qu'on pourrait appeler une oligarchie de chefs de clan réunis en assemblée, comme on le voit, par exemple, dans un territoire dont vous parlez aussi, moins, il est vrai, que de la Pologne ou de la Bohême, l'Islande. L'Islande est le modèle même du Thing, c'est-à-dire de cette assemblée de chefs de clan qui se réunissent une fois par an, à un lieu bien précis, pour décider démocratiquement entre eux, naturellement, c'est-à-dire que tous les autres ne comptent pas, les femmes, les esclaves, etc., pour décider de la politique commune, en somme. Et alors là, évidemment, le cas est magnifique parce que c'est une île, donc un monde fermé, mais on trouve des traits semblables dans d'autres régions de Scandinavie, et puis, naturellement, en Europe centrale.
Oui, j'emploie même le terme collectivisme barbare, mais j'insiste sur le fait que ce collectivisme barbare qui s'est conservé beau et bien sur les espaces de l'Europe orientale, il est présent aussi dans l'Europe occidentale, chez les Francs. Il est palpable dans la loi salique, il est palpable dans les Diderotteries, surtout dans la loi salique.
Karl Modrzewski, nous aimerions nous attarder sur la richesse de ce livre et des thèmes dont il parle et dont beaucoup seront, j'en suis sûr, très nouveaux pour vos lecteurs. Et je remercie Jean-Claude Schmitt au début de notre émission d'avoir souligné la pertinence de cet ouvrage dans cette période de construction européenne pour montrer cette diversité, complexité et richesse de l'Europe. Vous montrez bien des moments essentiels sur lesquels nous n'avons pas pu nous attarder, par exemple les conséquences du phénomène de la christianisation de ces barbares, les conséquences de l'effort d'une unité politique par Charlemagne qui divise plus ou moins le monde barbare qui survit en deux grands ensembles, celui qui fait partie du reste de l'empire de Charlemagne et celui qui reste en dehors. Vous montrez aussi comment, si les Germains et les Slaves constituent les deux principaux, plus nombreux, plus forts, ensemble de ce monde barbare, il a subi aussi des influences extérieures que l'on retrouve dans l'histoire de l'Europe. En particulier, ce sont les influences des nomades des steppes, les Avars et les Hongrois, et les influences des Vikings. Quand vous parlez de la fin de ce monde des barbares au bout de ces 11 siècles où vous les avez suivis, vous retenez comme moment de rupture essentiel à partir duquel se défait l'essentiel de ce monde barbare, le baptême. Le baptême, c'est le début de la destruction, et ceci nous rappelle aussi que vous n'avez pas oublié dans votre livre que cette civilisation des barbares qui nous a laissé des textes très riches, et en particulier ces lois auxquelles vous avez consacré l'essentiel de cet ouvrage, c'est aussi exprimé corporellement d'autre façon. Vous parlez au début, par exemple, du chant. Et puis, il y a tous ces gestes, tous ces rituels qui font partie de l'histoire du monde des barbares et qui nous montrent que l'historien doit se faire ethnologue pour tenir compte de ce que représentent ces gestes qui sont non seulement des sources pour lui, mais qui sont des expressions d'une très grande importance de la nature et de la vie de ces sociétés. Vous me permettrez, pour clore cette discussion que j'aurais aimé voir se poursuivre, et en vous écoutant parler de ce sujet auquel vous avez consacré tant d'années de votre vie, si j'ose dire, il y a le Karol Modzelewski de la lutte pour l'indépendance, pour la liberté, et le Karol Modzelewski pour l'explication du monde des barbares. C'est celui-là que nous avons eu aujourd'hui, et je me permets de renvoyer nos auditeurs pour connaître les deux faces de votre exceptionnelle personnalité au numéro de l'excellente revue de vulgarisation L'Histoire du mois de septembre qui vous consacre une présentation. Et la conclusion, je la reprendrai à ce que vous avez dit tous les deux, vous, Karol, auteur de ce livre, et vous, Jean-Claude Schmitt, notre invité, on ne pourra plus ignorer, après la lecture de cet ouvrage, qu'il y a un héritage culturel barbare qui est une composante essentielle de l'identité européenne à côté de celle qu'ont apporté Athènes, Rome, Byzance, et peut-être pourrait-on ajouter la Bible. Et pour terminer cette émission, nous allons écouter un texte qui nous présente d'une façon tout à fait impressionnante ce qu'étaient précisément les rites et les gestes qui avaient une valeur beaucoup plus que symbolique, une valeur, je dirais, quasi juridique dans ces sociétés barbares, à côté et avec des lois. C'est le problème des oracles, et en particulier à travers un personnage dont nous n'avons pas parlé au cours de cette discussion, mais dont je crois on peut dire qu'il a été aussi un des grands personnages du monde des barbares, le cheval.
La pratique du tirage des sorts est simple. Il coupe une branche à un arbre fruitier et la taille en petits coudes, les marquant de signes distinctifs, puis il les disperse au hasard sur une étoffe blanche. Ensuite, le prêtre de la tribu, s'ils prennent conseil pour des affaires publiques, le père de famille, lui-même, s'il s'agit d'affaires privées, invoque les dieux et, scrutant le ciel par trois fois, prend trois de ses rameaux et interprète les signes qu'on y a précédemment inscrits. S'ils l'interdisent, l'entreprise d'action concernant l'augure, on ne consulte plus l'oracle le même jour sur le même sujet. Si, en revanche, ils permettent d'agir, alors ils exigent une nouvelle confirmation de l'augure. La singularité de ce peuple, les Germains, est d'étudier les présages et avertissements que donnent les chevaux. Dans ces bois sacrés, on nourrit aux frais de la tribu des chevaux blancs et gardée pure de toute tâche exécutée pour les mortels. On les attelle à un char sacré, et le prêtre et le roi, ou le chef de la tribu, les accompagnent en observant leur hennissement et leur ébrouement. À nul autre augure, on accorde plus de foi, non seulement parmi le peuple, mais aussi parmi les dignitaires et les prêtres, car ils se considèrent comme les serviteurs des dieux et tiennent les chevaux pour leurs confidents.
Les lundis de l'histoire vous ont été proposés ce matin par Jacques Le Goff. Les textes ont été lus par Jean-Pierre Leroux. Et maintenant, les chemins de la connaissance.